Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le nouveau vice-président du gouvernement, Christophe Argelès. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation. Alors que les institutions issues des provinciales du 28 juin sont maintenant installées, c'est le cas notamment du 19e gouvernement dont vous avez été élu vice-président. Alors, il n'y avait pas de vice-président dans le gouvernement précédent. Et souvent, la nomination à ce poste, ça crée des tensions, des remous, des reports. Il y a aussi une tradition non écrite selon laquelle le poste doit revenir à un membre de l'opposition. Là, ce n'est pas le cas. Votre nomination n'a pas posé de problème? Les indépendantistes l'ont accepté?
Bon, en tout cas, ils n'ont pas forcément communiqué sur le fait qu'ils n'étaient pas d'accord, mais surtout, la tradition au gouvernement, c'est un président et un vice-président pas de la même famille politique. Je crois pas que Milakoulou Toukoumouli soit loyaliste. Enfin, en tout cas, il se l'est pas présenté comme tel. Et donc, du coup, on a essayé de montrer surtout une majorité d'action et des secteurs qui sont aujourd'hui les priorités du gouvernement, qui sont répartis à la fois sur le président du gouvernement, sur la santé, la protection sociale, le transport et le rétablissement des comptes sociaux, mais également la relance économique dont j'ai la responsabilité de porter.
On va revenir sur le détail des secteurs. Mais à quoi ça sert un vice-président? Il n'y en avait pas dans le gouvernement précédent, alors c'est utile?
Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas utile, sinon ça serait pas logique. Non, mais ce qui est important dans la vice-présidence, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire que peu importe au final la fonction, c'est comment on l'exerce. L'idée, c'est de pouvoir afficher justement un accord de gouvernance qui a été porté entre l'éveil océanien, les loyalistes et le rassemblement. Et c'est surtout ça qu'on a essayé de montrer. Ça permet de suppléer le président quand il n'est pas présent. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de travail. Enfin, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'enjeux, et je crois que le poste de président et de vice-président permettra justement de montrer justement ce pacte de gouvernance en lien avec les autres membres du gouvernement.
Alors justement, il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis le 28 juin, les élections, l'installation des différentes assemblées, du Congrès, du gouvernement. On n'a pas trop parlé de ce pacte de gouvernance, on en connaît les grandes lignes, mais sur le fond, quels sont ces termes et quels sont les objectifs de ce pacte de gouvernance?
Faire redémarrer la Nouvelle-Calédonie et montrer de la visibilité et de la stabilité. Je crois que c'est aujourd'hui la priorité absolue. On avait besoin d'avoir un accord de gouvernance qui répondait aux attentes des Calédoniens. Je crois qu'on est dans une situation qui est encore compliquée au niveau économique et budgétaire. Et donc, avec le président Toukoumouli, on a travaillé avec Sonia Backès, Nicolas Metzdorf, Gilles Brial et Alcide Ponga et Virginie Rufnacht sur la définition de cet accord, avec sur quoi on se rejoignait, sur quelles réformes on était en capacité de se rejoindre pour dire il y en a qui sont un peu plus sociales, enfin qui ont une vision plus sociale, il y en a qui ont une vision plus libérale et plus économique, et comment on arrivait à rejoindre ces deux visions en disant on est sur une répartition de la richesse, encore faut-il qu'elle soit créée, et donc comment on fait pour redémarrer la machine économique en Nouvelle-Calédonie, et c'est comme ça qu'on a signé cet accord de gouvernance et la répartition qui s'est faite à la fois au Congrès de la Nouvelle-Calédonie avec l'élection de Virginie et l'élection de la présidence du gouvernement et de la vice-présidence du gouvernement et la répartition des secteurs.
Mais quand même avec l'éveil océanien notamment, vous avez des approches très différentes sur les dossiers, sur les réformes, sur les dossiers sociaux et économiques. Vous allez trouver des solutions médianes où l'un va faire des concessions et pas l'autre. Comment ça va se passer?
On n'est pas dans une logique de concession, on est dans une logique d'objectif. C'est-à-dire que vraiment, on a la nécessité de reconstruction des comptes publics et de l'économie calédonienne. Et je crois qu'on partage tous, notamment avec l'éveil océanien, le fait qu'on doit faire des économies, c'est quelque chose qu'on partageait, qu'on doit redonner plus de simplification au système économique, qu'on doit faire davantage confiance aux entreprises. Et là-dessus, on s'est retrouvés. C'est-à-dire qu'il y a des propos de campagne, on est dans une campagne électorale. Aujourd'hui, la campagne électorale, elle est derrière nous. Et au final, quand on a fait ces discussions, il y avait des choses sur lesquelles on n'était pas si éloignés. Je prends un exemple qui est la réforme des retraites, qui est un sujet qui est compliqué, qui est un sujet qui est douloureux. On avait travaillé avant les élections avec M. Toukoumouli pour déposer des textes en commun, pour porter des choses en commun sur ces sujets-là. sur la partie économique et sur le fait que aujourd'hui l'imposition des Calédoniens est trop forte, la pression fiscale est trop forte, les contraintes administratives sont trop fortes, on a trouvé aussi des consensus pour arriver là-dessus. De toute manière, on n'a pas de majorité tout seul. On a une majorité qui est très large en province sud, mais au niveau de la Nouvelle-Calédonie, il fallait qu'on puisse trouver des alliances pour faire avancer la Nouvelle-Calédonie. Je crois que c'est ce qu'attendent les Calédoniens.
Ce qui est inhabituel aussi, c'est que Milakolo Tokomoli, le président du gouvernement, est issu donc de c'est le président de l'Éveil océanien. Il n'a pas de groupe politique, il n'a que 4 élus au Congrès. On n'a jamais vu ça, un président du gouvernement qui n'avait pas de majorité et même un groupe minoritaire.
Oui, il y a eu beaucoup de présidents du gouvernement qui n'étaient pas majoritaires. Enfin, et ensuite, le rôle du président du gouvernement, ce n'est pas un rôle de président de province. Enfin, le président du gouvernement représente le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mais il joue surtout le rôle d'animateur de la collégialité sur les différents acteurs. Il y a 5 membres qui sont issus de la liste qu'on a conduite avec les loyalistes et le Rassemblement. Il y en a d'autres qui sont de l'UNI et de l'UC. Et finalement, d'avoir un président du gouvernement qui est aujourd'hui membre d'un accord de gouvernance, mais qui n'était pas forcément sur la liste, ça ne pose pas forcément de problème. En tout cas, les premières semaines montrent que ça ne pose pas de problème. Je ne vais pas m'engager sur le long terme, mais en tout cas, notre volonté, c'est vraiment que ça dure sur ces 5 ans. La Calédonie a besoin de stabilité, la Calédonie a besoin de visibilité. On a des désaccords avec l'Éveil océanien, très clairement, comme ils en ont avec nous, mais je suis convaincu qu'on est en capacité de s'entendre sur des réformes dont les Calédoniens ont besoin.
En tout cas, les premiers pas, ça se passe bien. Vous avez procédé à la répartition des secteurs dès mercredi, sur la base de 3 piliers. Les secteurs ne concernent que des compétences qui relèvent de la Calédonie. Il n'y a pas de chevauchement entre eux et les secteurs sont regroupés par famille. Alors c'est assez innovant comme méthode. Avant, il y avait quand même, entre les 11 membres, il y avait énormément de secteurs. On a l'impression qu'il y en a moins. Effectivement, c'est regroupé. C'est quoi le but? Une plus grande efficacité?
Oui, on veut vraiment une plus grande efficacité de ce gouvernement. Déjà, enfin, au-delà des secteurs, on a été très vite. C'est-à-dire qu'on a été très vite à la fois sur la nomination du président, on a été très vite sur la nomination du vice-président et on a été très vite sur la nomination des différents secteurs qui
même,
ont été...
Même si, je ne vous le cache pas, les Calédoniens trouvent que ça traîne beaucoup, hein, que ça fait plus d'un mois qu'ils ont voté et que...
Oui, mais on a été dans les délais légaux sur le vote au Congrès et au gouvernement. Au gouvernement, on ne pouvait pas faire plus vite que ce qu'on a fait. C'est-à-dire que dès le premier jour, on a fait l'élection du président et du vice-président dès la nomination des membres. Et la répartition des secteurs dès la première séance du gouvernement, ça faisait très longtemps, enfin ça fait quelques années que je suis au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait une répartition aussi vite. Et on a voulu faire des signatures resserré et avec une méthode de fonctionnement où c'est un membre du gouvernement par direction et par secteur. C'est-à-dire que par le passé, au final, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, on voulait faire plaisir à un tel, donc on créait un secteur donc qui n'était pas vraiment la compétence du gouvernement, donc il empiétait sur la province. Au final, c'était l'intérêt général qui était perdu dans tout ça. Là, les choses sont claires. Chacun a son secteur, chacun a sa direction. On travaille en bonne intelligence avec les différents membres du gouvernement, d'abord la majorité, mais également les autres membres. Et le but, c'est d'être efficace. Ouais.
Alors, l'autre constat, là, au vu de la répartition de ces secteurs, c'est que les partis membres du pacte de gouvernance ont quand même gardé tous les secteurs essentiels, tous les secteurs importants. Enfin, c'est ceux qui permettent le redressement et la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est pas un peu une entorse justement à la collégialité, au partage des pouvoirs? Il y a vraiment une majorité, une opposition, une majorité qui prend l'essentiel des secteurs importants et une opposition qui a le reste?
Déjà, la délibération sur les secteurs a été votée à l'unanimité. Donc ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Ensuite, que la majorité, enfin qui est en place et les principaux secteurs pour mener la politique qui a été définie dans le cadre de l'accord de gouvernance qui a été fait avec l'Éveil océanien, c'est quelque chose qui est traditionnel. Enfin, c'est quand on a pris le gouvernement avec Thierry Santin en 2019, on avait les principaux secteurs. quand Louis Mapou a pris la présidence du gouvernement, ils avaient les principaux secteurs. Et donc, cette volonté, elle est pas une, c'est pas une volonté d'exclure les autres. C'est-à-dire que il y a des secteurs qui sont importants. Enfin, le travail, l'emploi et la formation professionnelle qui est chez Gilbert Tuyénon, dans le contexte actuel, on peut pas dire que le travail et l'emploi sont des secteurs de seconde zone. La question de la culture, de la pêche, tous ces secteurs-là sont pas des secteurs de seconde zone non plus. Il y a beaucoup de travail là-dessus. Mais on a des choses à porter dans le cadre de cet accord de majorité qui doivent être portées à travers des secteurs.
Ça s'est passé comment avec les indépendantistes? Sont trahis dans un secret, mais vous êtes allé très vite dans la répartition de ces secteurs. Ils ont accepté, ils ont choisi ce qui les intéressait aussi.
Il y a eu un travail qui a été fait par le président dans un premier temps. Et dans le cadre de l'accord de majorité. Dans l'accord de majorité, on a discuté des secteurs qui étaient prioritaires pour nous sur l'économie, le budget, la santé, la protection sociale. Il y a eu des propositions en amont pour aller justement vite quand le gouvernement était nommé. Il y a eu des discussions sur le secteur de l'agriculture, enfin de la souveraineté alimentaire, parce qu'on est vraiment sur les compétences propres du gouvernement, sur le sport, sur la DPJEJ, sur le travail, le travail et l'emploi. Et il y a eu un consensus qui s'est trouvé. Il y a eu des choses qui ont été créées, notamment sur l'économie sociale et solidaire, qui est un point qui est important, qui a été donné aux indépendantistes, parce qu'ils ont porté une loi sur le sujet. Mais très clairement, enfin, on est surtout dans une logique de performance, d'efficacité et de faire pourquoi les Calédoniens nous ont élus.
Alors vous-même, au-delà de la vice-présidence, vous avez également un secteur très important. C'était déjà le cas avant, je sais. Vous en avez même peut-être un peu moins cette fois-ci, mais...
J'en ai beaucoup moins.
Beaucoup.
Ouais.
Dans l'énoncé. Mais vous êtes chargé des secteurs de l'économie, de la fiscalité, des télécommunications, des questions douanières. Vous suivez également les sujets relatifs au commerce extérieur et à l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. Vous êtes enfin chargé des questions relatives à la souveraineté alimentaire de la Calédonie. Ça fait beaucoup quand même. C'est quoi la philosophie de ce secteur et quels vont être vos dossiers prioritaires? C'est l'économie?
Oui, la priorité, c'est l'économie. Enfin, c'est la construction du modèle économique. Déjà, j'ai plus le budget et les comptes sociaux parce que je les avais récupérés quand Thierry Santa avait démissionné du gouvernement. Et je pense que c'est sain qu'aujourd'hui, le budget soit confié à Philippe Blaise, donc qui portera ce sujet au gouvernement, et les comptes sociaux soient dans le secteur du président sur la partie santé. Moi, ma priorité absolue, c'est rétablir l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie et de faire redémarrer l'économie calédonienne. Tous les secteurs que je peux avoir sont liés aux différentes filières économiques que la Nouvelle-Calédonie peut porter, à la fois dans des mesures de court terme, sur des relances qui est nécessaire. Mais vous savez, j'ai vécu 7 ans de crise avec mes autres collègues, où on a été dans l'action court-termiste par nécessité, parce qu'il fallait répondre à des urgences. Je veux vraiment qu'on soit en capacité de construire un nouveau modèle économique pour la Nouvelle-Calédonie, qui est fondé sur à la fois de l'attractivité, montrer que la Nouvelle-Calédonie a des atouts pour faire venir de la population sur le territoire, de la simplification, qu'on soit sur un système à la fois administratif et fiscal qui arrête de faire du copier-coller de la métropole. Enfin, personne ne peut m'accuser de ne pas être attaché à la République, mais la Nouvelle-Calédonie ne doit plus faire du copier-coller du système métropolitain, un qui ne marche pas dans un pays, dans un territoire de plusieurs millions d'habitants, et qui marche encore moins sur une petite île au milieu du Pacifique avec 270 000 habitants. Il faut qu'on soit simple, il faut qu'on soit attractif, et il faut qu'on montre qu'on est en capacité de faire gagner plus aux Calédoniens et que le travail paye plus.
En fait, vous allez, dans beaucoup de domaines, poursuivre ce que vous avez déjà engagé dans les gouvernements précédents.
Oui, enfin, on va continuer sur ça, mais enfin, surtout, on va mettre en place un certain nombre d'engagements de campagne qu'on a pris. Enfin, je pense sur la réforme, notamment l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. On s'est engagé sur la suppression des droits de succession, parce que c'est un impôt le plus injuste possible. Taxer le fruit d'une vie de travail, c'est quelque chose qui n'est plus possible. Surtout quand nos voisins ne le font pas. C'est-à-dire que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Fidji et la Polynésie n'ont pas de droit de succession et donc les capitaux vont sur ces territoires et pas en Nouvelle-Calédonie. Et donc on va mener ces politiques et les actions que nous avions déjà menées.
Il y a un accord du pacte de gouvernance sur cette question des droits de succession ?
Oui, il y a un accord sur ce sujet qui doit être discuté sur la base du texte, comme on a un accord sur des réformes importantes sur les retraites, sur le RUAM et sur le rétablissement des comptes.
Sur le RUAM notamment, ça avait été compliqué avec Milakolo Tokoumouli qui a présenté des textes qui n'étaient pas passés. Cette fois-ci, vous allez trouver une vraie solution pour la réforme ?
En fait, on partage une... Et c'est pour ça que c'est assez simple au final, parce qu'on partage la philosophie à la fois sur les comptes sociaux comme sur le système fiscal, qu'on doit avoir un système qui est simple et qui est un système qui est souvent à un seul taux, avec le taux qui est le plus bas possible parce que l'assiette est la plus large possible. Et ça se base à la fois sur les comptes sociaux, mais également sur le système fiscal. Et donc, on arrive à retrouver ça et on se rejoint sur le fait qu'il faut que la Nouvelle-Calédonie, que ses satellites, montrent l'exemple en matière d'économie, en matière de baisse de dépenses publiques. Et on sera beaucoup plus crédible vis-à-vis de nos partenaires étatiques si on est en capacité de montrer ça.
Alors, vous n'avez plus le budget et les finances que vous aviez dans le mandat précédent, enfin dans le dernier gouvernement. C'est Philippe Blaise qui les a en charge. Ça veut dire que, en fait, vous allez travailler étroitement ensemble, j'imagine, si vous avez l'économie, lui, les finances.
Oui, bien sûr.
C'est complémentaire.
Je pense qu'on s'est vu à peu près tous les jours avec Philippe depuis la nomination. Mais comme on travaille étroitement avec Nina Julier, qui est en charge de secteurs importants, avec Laurent Bonnefond, qui est à nouveau dans le gouvernement, qui est en charge de la reconstruction économique, où on doit être en capacité d'accélérer les chantiers pour favoriser la reprise du BTP. J'étais avec la CCI ce matin, je serai avec le MEDEF cet après-midi et j'aurai l'occasion de faire d'autres déplacements. Mais on se voit régulièrement, tous les membres du gouvernement, avec les chefs de parti, parce que c'est également important qu'on puisse avoir ce lien entre le gouvernement, le Congrès et les provinces pour pouvoir avancer, que le gouvernement ne soit pas isolé à rue Gallieni, mais qu'on puisse porter des choses en commun et que ça aille vite au gouvernement, mais que ça aille vite aussi au Congrès. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de textes que je pense sur l'attractivité, la simplification qui sont bloqués depuis 2 ans au Congrès, un texte sur les opérateurs satellitaires qui est bloqué depuis 2 ans au Congrès. Je pense qu'il faut qu'on soit en capacité d'accélérer un petit peu la machine législative.
La situation financière de la Calédonie, elle est dramatique, tout le monde le dit. Le président du gouvernement a déclaré que la Calédonie était en cessation de paiement. Il dit qu'il faut trouver 13 milliards d'ici la fin du mois. C'est dans 20 jours, même pas. Il a raison.
Oui, il a raison, mais en fait, il a raison dans ce qu'il annonce, mais on est en cessation de paiement depuis 2 ans. Enfin, j'ai été en charge du budget. Le travail du membre du gouvernement en charge du budget, c'est de pouvoir assurer les dépenses de la collectivité quasiment toutes les semaines. Là, on a été mis en difficulté parce que l'État a fait 2 versements alors qu'il devait en faire qu'un seul. Donc, on espère que l'État fasse le versement le plus rapidement possible, qui évitera cette cessation de paiement, et je suis convaincu que ça sera évité, mais on y reviendra, mais on doit justement avoir cette discussion avec l'État pour éviter ce goutte-à-goutte permanent qui met en stress tout le monde et qui est totalement inutile parce qu'au final, on trouve toujours des solutions au bout.
Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ces versements ou pourquoi est-ce qu'il les diffère ? C'est parce qu'il attend des réformes de la Calédonie.
Parce que l'État n'a pas respecté ses engagements sur ce sujet. On travaille très bien avec le haut-commissaire et avec le secrétaire général du haut-commissariat. Mais il y avait des engagements en début d'année de la mission interministérielle qui disaient qu'il n'y avait pas de contrepartie au prêt et on travaillait sur le contrat de désendettement. En cours d'année, il y a des contreparties qui sont apparues et donc l'État a fait un versement en 2 fois qui fait qu'on se met en tension de trésorerie. Donc ça va être résolu. Tout avance bien, les relations s'apaisent et je suis convaincu qu'on sera en capacité de trouver des solutions prochainement.
On va trouver les 13 milliards d'ici la fin du mois.
Oui, mais ils existent en plus. Ils existent. Ensuite, il y a un vrai sujet sur l'année prochaine. Pour finir la fin de l'année, où il nous manque là aussi des liquidités et pour commencer l'année. Mais le gouvernement est à la tâche pour trouver tout ça.
Alors, il y a une mission transpartisane qui doit partir à Paris dans quelques jours maintenant. Transpartisane, ça veut dire au-delà du pacte de gouvernance, pour le coup, c'est inter-collectivité et Alors, qui va être dedans, si on peut déjà le dire, et quel est l'objectif de cette mission?
Il y a plusieurs membres du gouvernement qui seront du déplacement, donc le président et moi-même, plus des représentants d'autres formations politiques. On a souhaité associer le Congrès à ce déplacement. Les provinces, c'est encore en discussion sur ce sujet. Mais vous savez, enfin, qu'on soit indépendantiste ou non indépendantiste, on est dans la même mouise budgétaire quand on doit gérer les institutions. Donc c'est important qu'on puisse porter des choses en commun sur les futurs besoins de la Nouvelle-Calédonie et surtout sur la chose sur laquelle l'État s'était engagé, le désendettement de la Nouvelle-Calédonie. Au moment des discussions qui se sont tenues à Paris en fin d'année dernière et en début de cette année, il y avait un engagement de transformation des prêts en subventions sur la forme d'un contrat de désendettement. Il faut que l'État respecte son engagement sur ce principe. On montrera les réformes qui ont déjà été faites. On montrera les réformes qu'on sera en capacité de faire. Mais il faut que l'État soit en soutien sur ce sujet.
Bah, dès l'élection du 19e gouvernement, le Premier ministre a dit que l'État serait là et qu'il répondrait aux besoins. Donc c'est quand même rassurant.
On a fait beaucoup de captures d'écran de ce poste.
Et ça va être à quel niveau cette mission transpartisane? Vous devez voir le Premier ministre.
Au plus haut niveau, enfin, on est en train de caler sur, à la fois sur le président de la République, le Premier ministre, les présidents des différentes chambres, les ministres qui sont concernés. Il y a une question aussi sur la question du nickel, qui est gérée notamment par les provinces, mais sur lequel le gouvernement aussi souhaite intervenir pour soutenir justement les reprises de certaines entités. Non, on va aller au plus haut niveau. On a eu un soutien qui a été permanent au plus haut niveau. Parfois, quand ça redescend, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va essayer de remonter le sujet calédonien en haut de la pile. Et bien entendu, les parlementaires seront également là. J'étais juste avant avec le député Metzdorf pour évoquer aussi ce sujet. Il y aura la présidente de la province qui sera présente également. Et donc, l'idée, c'est de chasser en meute.
Et déjà de préparer le budget, enfin, de poser les bases du budget 2027, parce que c'est pas acquis pour l'instant, j'imagine.
Ah non, c'est jamais acquis. Enfin, c'est sur ce sujet, c'est jamais acquis. On aura des besoins. Et donc, mais je vous dis, enfin, et il faut vraiment que l'État arrête de croire qu'on ne fait pas de réforme. Enfin, vraiment, c'est un message qu'on souhaite faire passer parce que, enfin, on a baissé les retraites de la fonction publique. C'est quelque chose qui est compliqué. On a mis le jour de carence au premier jour. L'assiette de répartition est passée de 115 à 100 milliards, donc 15 milliards d'économies. Les Calédoniens ont subi des hausses du prix de l'électricité. Je pense que si ces réformes-là avait été présenté en métropole, il y aurait eu des émeutes. Il y a des gouvernements qui sont tombés en métropole parce qu'ils ont supprimé des jours de congé. Ils sont revenus sur la réforme des retraites. Nous, on a déposé une réforme des retraites qui allonge la durée des annuités en pleine période électorale. Donc, il faut que l'État comprenne qu'on veut réformer, mais par contre, qu'on surtaxera pas les Calédoniens, qu'on mettra pas de la pression fiscale supplémentaire sur les Calédoniens, et qu'on sera pas dans une volonté de cadenassage de l'économie calédonienne.
C'est quelque chose qu'il n'admet pas pour l'instant, il veut vraiment, enfin, il préconise une hausse de la fiscalité en Nouvelle-Calédonie.
Oui, moi je suis en charge de l'attractivité, enfin, si on explique à la fois aux personnes qui sont présentes localement et ou aux investisseurs extérieurs qu'on va augmenter les impôts, je suis pas sûr que ce soit le meilleur message d'attractivité. Et en plus, je suis pas sûr que la France soit le meilleur modèle en termes de développement économique actuellement et de gestion de ses finances publiques.
Alors, concrètement, quelles sont les réformes qui peuvent être mises en œuvre, qui sont acceptables par vous, par le pacte de gouvernance notamment, et qui feraient plaisir à l'État ou qui permettraient à l'État d'estimer qu'on a fait des réformes suffisantes?
Je vous dis, la réforme des retraites, c'est quelque chose qui est indispensable. De toute façon, c'est quelque chose qui s'impose à toutes les sociétés actuelles, parce qu'avec le vieillissement de la population, il y a deux textes qui sont sur le bureau du Congrès. Un texte qui était venu du gouvernement, un texte qui avait été déposé par Mila Kolotukumuli. Donc ces textes-là, on va les fusionner. Enfin, on va travailler dessus. C'est le président qui en a la charge. La question de la simplification de la fiscalité calédonienne. Là aussi, enfin, aujourd'hui, on a des milliers de taxes. Je pense qu'on peut bien simplifier ce système-là.
Les taux de la TGC notamment, ça va revenir.
Les taux de la TGC, mais on peut aller plus loin que ça encore sur la partie de simplification. On y reviendra prochainement, mais enfin, je laisserai la déclaration de politique générale se faire. Mais il faut qu'on simplifie, il faut qu'on ait l'assiette la plus large possible et le taux le plus bas possible. C'est ça la philosophie qu'on porte. Ouais.
Les questions d'avenir institutionnel, en revanche, elles ont été mises de côté par le pacte de gouvernance. Vous allez à Paris, je ne sais pas si vous aurez l'occasion d'en parler, parce qu'un jour, il va bien falloir les remettre sur la table. Comment ça peut se passer? Est-ce qu'à ce moment-là, il y aura un danger, il y aura un risque de d'éclatement du pacte, ou comment est-ce que vous voyez les choses?
Là-dessus, enfin déjà dans la signature du pacte, enfin il y a une chose qui est convenue, c'est que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne s'occupe pas d'avenir institutionnel. Et je crois que c'est bien si on n'en parle pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on verra si l'État veut en reparler. L'urgence, elle est économique et sociale. Les élections sont passées. Retrouvons-nous d'abord sur des sujets qui font consensus. Et je ne pense pas qu'avant l'élection présidentielle, il y ait beaucoup d'avancées sur le sujet. C'est au final pas plus mal.
Oui, il n'y a pas de velléité de l'État pour l'instant. Il n'a pas réinvité les groupes politiques à venir en parler. Donc on attend quelques mois encore et les élections présidentielles.
C'est à la main du Premier ministre et c'est à la main des formations politiques. Mais retrouvons de la confiance, retrouvons de l'activité. Laissons ce qui nous a divisé derrière nous pour le moment.
Justement, pour conclure.
Et de notre côté, on avait fait le job. C'est-à-dire que, on avait fait le 4/5e des groupes du Congrès s'était mis d'accord sur un accord. C'est l'État qui nous a finalement lâché dans cet exercice au Parlement. Donc, les Calédoniens ont fait le travail. Si l'État veut essayer de retrouver une solution qui nous convient, on laissera l'État la proposer.
Pour conclure, Christopher Gilles, vous êtes membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie depuis 8 ans. Je sais que vous n'aimez pas qu'on dise ça.
Moi, je n'y pas.
Malgré votre jeune âge, vous êtes membre du gouvernement depuis 8 ans. Sous les présidences de Philippe Germain, Thierry Santa, Louis Mapou, Alcide Ponga, maintenant Mila Kouyoto-Koumouli. Avec votre expérience, quels sont selon vous les atouts et les handicaps de ce 19e gouvernement et quelles sont ses chances de réussir? Vous avez des éléments de comparaison quand même.
Oui, déjà, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, le président et le vice-président du gouvernement sont les benjamins du gouvernement. Donc ça montre qu'il y a quand même un renouvellement de la classe politique. L'atout, je pense qu'on n'a pas le choix que de réussir. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est telle qu'aujourd'hui, au final, ça nous impose de trouver des consensus pour répondre aux attentes des Calédoniens sur le retour de la confiance, le rétablissement des comptes, le retour de la croissance, le croissance économique. Et au final, l'accord de gouvernance qu'on a pu créer avec l'éveil océanien sur le sujet. Et je le dis, on a des accords, mais vous savez, on a des désaccords même en interne parfois chez nous. Mais on est convaincu que cette discussion qu'on peut avoir, ces enjeux qui sont portés, fait que ce gouvernement doit réussir. Enfin, et en tout cas, il s'est fait sur des bases de projets, enfin de textes, et pas sur des bases de répartition de postes. Je sais que parfois, quand on dit ça, ils disent oui, non, mais en fait, ils se sont répartis les postes et tout va bien. Non, on s'est d'abord mis d'accord sur les textes qu'on souhaitait porter avant de se répartir les postes, et je crois que ça, c'est quelque chose qui est quand même nouveau.
Prochain rendez-vous, le discours de politique générale du président du gouvernement, le 24 août.
Certainement, oui.
Et vous partirez ensuite donc à Paris pour cette mission transpartisane.
Exactement. On fait la déclaration de politique générale et on part à Paris pas longtemps parce qu'il y a du boulot ensuite à Nouméa et je pense qu'il y a des belles choses à faire dans ce gouvernement.
Pendant l'occasion de reparler de tout cela, Christopher Gilles, vice-président du gouvernement, merci d'accepter cette invitation.
Merci à vous.